Saavedra.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación en el evento.
À trois semaines de l'ouverture de la conférence de Paris sur le climat, le sujet est dans tous les journaux, presse, télé, radio, web. Il y a les décodeurs en 10 points clés, les prévisionnistes. Alors, succès ou échec annoncé pour cette conférence, les besogneux qui décortiquent l'avancée des négociations ou les annonces de tel ou tel pays, comme la Chine par exemple, qui dans une déclaration commune avec la France accepte enfin l'idée d'un accord juridiquement contraignant pour que tous les pays limitent leurs émissions de gaz à effet de serre, avec même une vérification des engagements tous les 5 ans. La Chine qui reconnaît la même semaine avoir sous-estimé les calculs de ses émissions durant ces 10 dernières années. Oups ! Mais est-ce que cela passionne les foules ? Selon un sondage de l'Institut Open Diplomacy et OpinionWay qui ont conduit une étude sur le thème « Les Français et la COP21 », donc on ne parle là que de la France, 40% des Français pensent qu'aucun engagement important ne sera pris lors de cette conférence. Alors comment la rendre accessible à tous ? Comment passionner les foules avec un sujet compliqué qui semble si loin de notre quotidien ? C'est le travail des journalistes qui sont avec nous dans ce studio 42 de RFI. Je vous les présente tout de suite. Anne-Sophie Novel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'initiative de Place to Be, un lieu foisonnant qui va essayer de créer un récit justement autour de la COP21. Vous me faites les gros yeux, on va en parler dans un instant. À vos côtés, François Meurice, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de Terra Eco, le magazine qui change le monde quotidiennement sur Internet et mensuellement en kiosque. Alors vous, vous parlez depuis longtemps d'écologie dans Terra Eco. C'est votre pédigré, j'ai envie de dire, c'est dans votre ADN. Mais dans le bouillonnement actuel, il a fallu innover, vous nous direz comment. Et à vos côtés, Cédric Angelbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Philosophie Magazine. Et oui, tous les supports s'y mettent. Je le disais tout à l'heure, même l'équipe se met à parler d'environnement, le journal sportif, le quotidien sportif français. Et alors vous, dans Philosophie Magazine, votre numéro daté de novembre, vous posez une question. La nature a-t-elle toujours raison ? Eh bien, je vous poserai la question tout à l'heure. Mais tout d'abord, puisque l'on parle de médias, nous avons eu un coup de cœur avec François Porcheron, le réalisateur de C'est pas du vent, pour deux étudiants en génie de l'environnement de l'université d'Abomey et Calavi au Bénin, Ralph Nyonlonfoun et Espoir Olodo. Ils ont créé greenfocusmag.com. Bonjour Espoir Olodo.
Bonjour Madame Antoine Brock, comment vous allez ?
Mais ça va bien et vous-même ?
Ça va bien, ça va.
Alors, vous êtes en ligne avec nous depuis Cotonou. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de créer ce site en plus de faire vos études ?
Bon, la première raison, c'était le manque d'une plateforme au Bénin. Il n'y avait pas assez de sites qui parlaient de l'actualité de l'environnement au Bénin. Ça, c'est la première motivation. Maintenant, la seconde, c'est aussi la volonté de pouvoir promouvoir notre filière chez elle, une de l'environnement. Sensibiliser la foule, l'informer des innovations dans le secteur vert, et aussi participer d'une certaine manière à l'éclosion du développement durable dans le pays.
Alors, informer les foules, c'est vrai que c'est difficile. Alors, votre site est vraiment très bien fait, je le dis quand même aux auditeurs, greenfocusmag.com, allez, gros coup de pub. Et vous parlez beaucoup de climat, d'ailleurs. Alors, quelle est la connaissance autour de vous des enjeux de la COP21, que ce soit à l'université, avec vos collègues qui pourtant font des études d'environnement, ou chez vos amis, dans votre famille, est-ce que les gens parlent de la COP21? Parce que quand on est en France, là où la conférence va se dérouler, on a l'impression que tout le monde ne parle que de ça. Mais comment c'est vu du Bénin?
Bon, vu du Bénin, bon, on ne peut pas dire que c'était un grand... On ne peut pas sentir déjà que tous les moyens informés de la COP21, par exemple, il y a certains qui savent qu'il y a le réchauffement climatique. Mais la COP21, même en elle-même, il n'y a pas assez de personnes qui sont informées, à part ceux qui sont régulièrement en contact avec les sites environnementaux et consorts.
Oui, donc il y a quand même un manque d'information. Et vous me disiez en préparant cette émission qu'il y avait même un sentiment de la part de certaines personnes avec lesquelles vous discutiez, presque d'un complot, en disant c'est encore un truc qu'inventent les Occidentaux pour mettre le développement de l'Afrique sous cloche. C'est quelque chose que vous entendez de temps en temps.
Oui, on dirait que c'est comme s'il y a un scepticisme ambiant, quoi. Une sorte de complot général encore pour emmerder l'Afrique.
Oui. Alors donc avec votre site greenfocusmag.com, vous essayez d'informer. Malheureusement, on ne va pas pouvoir vous garder très longtemps avec nous parce que la ligne n'est pas très bonne. Mais donc j'invite les auditeurs à aller voir votre site. Et on a bien compris que vous étiez extrêmement motivés, vous et donc votre collègue Ralph Nyonlonfoun, tous les deux étudiants à l'université d'Abomey Calavi. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Alors comment est-ce que vous réagissez les uns et les autres dans ce studio à ce que l'on vient d'entendre ? C'est vrai que Le niveau de connaissance est extrêmement divers, hein, que ce soit de la part des journalistes qui vont affluer en masse d'ailleurs à cette COP21. On attend, François Meuré, je crois, plus de 3000 journalistes à la COP21. Donc il va y avoir le problème du niveau de connaissance des journalistes pour couvrir cet événement, et puis du niveau des auditeurs, des lecteurs, des téléspectateurs qui vont recevoir l'information.
Oui, exactement, on le voit bien, nous, à la rédaction de Terra Echo au quotidien, tout simplement, les coups de fil d'abord de nos collègues commencent à d'autres médias.
À vous aussi.
Oui, commencent à affluer un petit peu. On prend quelques numéros de téléphone, on veut se renseigner, est-ce qu'on pourrait faire un petit point de 5-10 minutes quand même sur des choses assez basiques, nous semble-t-il. À nous, à Terra Echo, forcément, on traite de climat.
Comme quoi, par exemple?
Qu'est-ce que ça veut dire que les émissions de gaz à effet de serre, tout simplement, ce genre de choses. Qu'est-ce qui émet comme secteur? Est-ce que c'est les transports? Est-ce que c'est vraiment la voiture? Est-ce que c'est la viande? En général, ça, les gens n'y pensent pas beaucoup, que c'est l'agriculture, genre de secteur. Et pourtant, évidemment. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc là, pour le moment, on est encore très sympathique. Il reste encore quelques semaines. On donne des numéros de téléphone, on explique, on fait de la pédagogie, même avec nos collègues. Mais peut-être que dans quelques jours, ça va être plus difficile. On leur dira, lisez Terra Echo et lisez les autres médias qui s'y intéressent.
Alors, Anne-Sophie Nobel, vous, justement, vous avez eu envie de créer un endroit qui s'appelle Place to Be, qui va donc prendre naissance réellement en même temps que la COP21. Ça va ouvrir le samedi 28 novembre.
Exactement, 3 semaines.
Quand vous dites ça, on sent que vous êtes un peu tendu, hein, voilà. Et alors, expliquez-nous le principe, puisque l'idée, c'est de créer un récit, justement, autour de la COP21, un récit différent des médias traditionnels.
Oui, et en fait, Place to Be s'inspire de l'expérience que j'ai eue à Copenhague pour la COP15, donc en 2009, où j'étais blogueuse et je me suis retrouvée avec d'autres blogueurs du monde entier dans un lieu qui avait été privatisé en espace de coworking pour qu'on se retrouve dans un café et qu'on travaille ensemble, qu'on échange, mais aussi de mon vécu de blogueuse, journaliste pour différents supports où je me rends bien compte que quand on essaye de parler de ces sujets, c'est compliqué. Alors des fois, il faut convaincre une rédaction, c'est pas toujours le cas, surtout chez dans les médias convaincus, mais aussi quand on fait des articles, parfois on se rend compte que c'est difficile d'en parler, que le public ne va pas acheter, ne va pas s'y intéresser, que c'est anxiogène, que c'est compliqué, que c'est un débat d'experts ou que c'est empreint d'idéologie pour certains. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour plus intéresser le grand public à ces questions, pour expliquer que s'il y a un seul enjeu dont on doit s'emparer, c'est celui-là. Place to Be, c'est cette envie de profiter de la COP pour lancer une dynamique qui allie des journalistes, des blogueurs, des narrateurs, qu'ils soient photographes, dessinateurs, youtubeurs ou autres, pour essayer ensemble de se dire comment est-ce qu'on peut créer peut-être des nouveaux formats, mais aussi reprendre les problèmes, réexpliquer les solutions en essayant d'aller toucher les gens différemment. Donc c'est une expérimentation grandeur nature.
Et ça va être une véritable effervescence parce que c'est un lieu qui va fonctionner jour et nuit puisque à la base c'est une auberge de jeunesse. Donc on peut dormir sur place.
C'est ça. Donc il y a 600 personnes qui pourront dormir sur place pendant 1 à 2 semaines. Donc il y aura un espace de coworking ambiance café. Il y aura une Creative Factory qui va essayer justement d'être avec des mentors qui apporteront du contenu ou qui apporteront des connaissances en termes de format pour inventer des choses et des formats pendant ou pour la suite. Et puis, tous les soirs, on aura le Place to Brief, qui est un moment où on va débriefer de ce qui s'est passé dans Paris, au moment des négos, au Bourget, mais aussi dans le reste de Paris. Et on va faire un focus sur des sujets qu'on a déjà définis, qui sont conçus comme autant de chapitres d'une nouvelle histoire, où on pourrait à chaque fois s'interroger sur comment mieux faire passer le message. Et on va avoir des experts du monde entier qui vont venir pour en parler, experts connus ou pas connus. Surtout, voilà, on est dans un espace d'échange. Quoi.
Et de réflexion. Alors, Cédric Angelbert, vous, donc, vous êtes journaliste à Philosophie Magazine. Et vous me disiez justement, en préparant cette émission, que là, le magazine a fait un dossier sur la nature a-t-elle toujours raison. On va parler du contenu. Mais c'est difficile parfois de parler de ces sujets-là dans un journal qui s'adresse plutôt à des gens qui s'intéressent à la philosophie parce que, voilà, on ne vous attend pas forcément sur ces sujets.
C'est ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un magazine qui se concentre sur les questions écologiques habituellement. Et donc, notre angle a été de voir quel a été le rapport de l'homme à la nature et de mettre en perspective cette masse d'informations dont vous parliez tout à l'heure en essayant de voir comment, et dans l'histoire de la philosophie et dans les théories les plus contemporaines, la nature est conçue. Et est-ce qu'il ne faut pas changer ce rapport à la nature pour essayer de mieux comprendre ce qui va se dérouler durant la COP21? C'est le travail que nous avons fait dans le numéro de novembre sur ce sujet. Donc la nature a-t-elle toujours raison? En essayant de voir quels ont été les grands axes de la philosophie évoquant ce rapport de l'homme à la nature.
Alors avec deux approches, hein, d'un côté on dit faut laisser faire la nature et l'autre au contraire faut la dominer.
C'est ça, il y a une approche qui est dans le respect de la nature, donc qui implique d'avoir les effets les moins négatifs possibles sur elle, et un autre versant qui est plus techniciste, qui est plus dans la technologie, dans tout ce que l'homme peut faire de technologique pour essayer d'améliorer donc son rapport à la nature et d'influer le moins possible sur le dérèglement climatique.
Alors ça, c'est assez effrayant, hein, toutes ces technologies que vous mettez en avant. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples, parce qu'il y a des choses vraiment extrêmement surprenantes?
Notamment le plus étonnant, ce sont ce qu'on appelle les techniques de géo-ingénierie, à laquelle nous avons consacré une enquête. Je me suis rendu notamment en Suisse et j'ai eu contact avec des ingénieurs au Canada qui développent tout un panel de solutions pour essayer de réduire le réchauffement climatique par des biais techniques, comme injecter des aérosols dans l'atmosphère pour renvoyer le rayonnement solaire, ou ensemencer les océans pour essayer que les algues se développent et absorbent le maximum de CO2. Ou, en Suisse, ce que je suis allé voir, des énormes ventilateurs conçus pour absorber le CO2 dans l'air et le transformer ensuite en un carburant qui est dit neutre, dans la mesure où il ne rejette pas de dioxyde de carbone dans l'atmosphère.
Alors, c'est une tendance qui est assez forte, ça, François Meurice, hein, vous en avez parlé,
oui,
vous aussi, dans Terra Eco, alors qui est très critiqué, évidemment, par les ONG, mais qui, en même temps, prend de l'ampleur aussi.
Ça prend de l'ampleur, et après tout, encore une fois, c'est comme on peut faire un rapprochement avec le climat. Scepticisme, que des gens soient sceptiques, on a le droit, que des gens fassent des expériences de ce type, on a le droit, et évidemment. Après, il faut se rendre compte, prendre un tout petit peu de recul et se demander si c'est la seule solution pour faire avancer les choses et réduire nos émissions de gaz à effet de serre, évidemment. Si on trouve un moyen miraculeux d'ici deux semaines, grâce à un grand ventilateur, un épouvantail, ou quelle que soit la technologie, pour réduire à zéro nos gaz à effet de serre, moi je signe tout de suite.
Bah écoutez, ça simplifierait notre travail de journaliste et ça éviterait un grand raout comme la COP21. Donc voilà, nous sommes à la recherche de cet épouvantail. On continue notre réflexion juste après ça.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. Oh yeah.
Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes copains ont des voitures, il y en a d'autres à l'aventure. Mes copains ils sont partis, oh mais moi je suis là pour servir mon pays, et je suis là. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. Mes copains ont des voitures, il y en a d'autres à l'aventure. Mes copains ont des villas, mes copains ils sont partis. Oh mais moi je suis là pour servir mon pays. Oh je suis là, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donne-ni, 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 colonie pagnoïa.
Cherlo, dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la difficulté d'informer sur les changements climatiques et de passionner les auditeurs que vous êtes avec cette échéance dont tout le monde parle en ce moment, la conférence sur le climat qui se déroulera à Paris fin novembre avec nos trois invités, Anne-Sophie Novel, fondatrice de Place to Be, François Meurice, rédacteur en chef de Terra Eco et Cédric Anjalbert de Philosophie Magazine. Alors Anne-Sophie, vous le disiez rapidement tout à l'heure, vous étiez à Copenhague. Il y a eu, avant cette conférence de Copenhague en 2009, un peu la même frénésie que l'on ressent en ce moment, c'est-à-dire beaucoup de médias qui se mettent à parler du climat, de l'environnement, alors qu'on peut dire que quand même après Copenhague, il y a une espèce de grand silence, comme si tout le monde s'était pris un coup de massue derrière la tête et ne savait pas trop comment prendre les choses. Est-ce que, à votre avis, on a tiré des leçons, quand je dis on, je parle des médias notamment, de ce traitement et de cette montée et cette baisse, et est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans le même piège aujourd'hui ?
C'est compliqué de répondre à cette question. Je sais pas. Je trouve que les médias ont progressé, mais sur une longue traîne, ça reste une progression douce. C'est sûr que là, il y a une effervescence. Depuis septembre, on l'a senti, et ça va aller comme ça jusqu'à décembre. On pourra juger en janvier de la prise de conscience, mais il y a des titres quand même qui ont beaucoup progressé. Il y a des nouveaux titres qui sont apparus. Voilà, il y a la revue dessinée qui parle beaucoup de ces sujets. Le 1 parle aussi beaucoup de ça. Paris Match aussi avance, fait beaucoup, plus en plus de reportages. Donc ça, c'est satisfaisant. Après, tout dépend de la configuration aussi et des résultats de la COP, parce que je crois que par rapport à Copenhague où il y avait une attente citoyenne très forte et il y avait une vraie effervescence, là Paris il y a quand même des choses qui s'alignent en termes politiques qui peuvent présager d'une issue un peu plus satisfaisante. Quand on voit la façon dont États-Unis, Chine ont commencé à discuter les engagements de la Chine cette semaine, la façon dont les mouvements religieux aussi viennent en masse avec l'encyclique du pape, avec peut-être d'autres mouvements qui vont être lancés, il y a une mobilisation aussi des ONG qui est un peu différente, qui, à mon avis, a développé une stratégie consciente de ce qui s'est passé à Copenhague, qui ne veut pas présenter le sommet comme le sommet de la dernière chance, qui regarde déjà 2016, qui a conçu ses actions dans Paris de manière différente, avec une marche le 29, avec des jeux Climate Games le 12. Enfin, c'est marrant de voir les choses s'aligner parce que je sens qu'il y a une énergie peut-être un peu différente, peut-être plus consciente de cette possibilité d'échec, qui du coup s'autonomise en disant « Ok, ils vont faire ça, mais nous, on agit aussi à notre niveau. » Et je pense qu'au niveau des médias, il y a aussi cette posture qui commence à se développer et ça c'est assez intéressant de l'observer.
Est-ce que François Meurice, vous aussi qui aviez suivi un petit peu Copenhague à l'époque, vous froncez du nez, non ?
Oui, parce que je suis rentré à Terra Eco un mois après.
Oh, ah là là, oui, mais je pense que vous aviez quand même cette oui. sensibilité. À Copenhague, il y avait quand même une focalisation sur l'accord. Est-ce qu'il y aura un accord ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'accord ? Et c'est vrai, comme le disait Anne-Sophie, 6 ans plus tard, on sent quand même que ça bouge du côté du monde économique, du monde spirituel, du monde politique. Politique, même si ça ne bouge pas assez vite, etc. Mais il y a quand même une mobilisation qui est, j'ai envie de dire, plus transversale, plus horizontale.
Et plus fine, peut-être. On est un peu moins dans le tout ou rien. Même Terra Eco, hein, j'avoue, le numéro de décembre 2009 de Terra Eco, la couverture, c'était Obama et Sarkozy vont-ils sauver le monde ? Voilà, on est moins dans la caricature. D'ailleurs, c'était un dessin, c'était une caricature, la une de ce numéro-là. C'est pas un hasard, évidemment. Aujourd'hui, oui, c'est un peu plus fin médiatiquement, effectivement, comme Anne-Sophie l'a dit aussi. Donc les religions, il y a également eu un appel des musulmans à Istanbul qui a été repris par le Conseil français. Voilà, c'est vrai que ça bouge un petit peu
aussi.
Les bouddhistes, exactement, et ça pouvait faire un peu rire il y a quelques années, ce genre de prise de position d'acteurs qu'on n'attendait pas, le pape évidemment, le pape François qui s'implique très très clairement dans la question. Aujourd'hui on rigole moins,
et
c'est vrai que c'est un petit peu ça rend un petit peu optimiste, un petit peu.
Et puis, il y a un vrai effort pédagogique hein, qui est fait de la part des médias. Par exemple, vous, je disais tout à l'heure, Terra Eco, c'est votre fonds de commerce, j'ai envie de dire, l'environnement. C'est pas une critique, c'est le nôtre aussi.
Et la pédagogie aussi.
Et la pédagogie aussi. Et donc là, pour vous démarquer, vous avez décidé de faire un MOOC. Alors, un MOOC avec un K.
Exactement.
Expliquez-nous ce que c'est.
Un MOOC, donc c'est un hors-série. Un MOOC, c'est un magazine book. C'est-à-dire que c'est un beau magazine. Ça reste un magazine où entre le magazine et la revue, mais c'est un magazine qui est plus gros que d'habitude. Il fera 140 pages, il n'y a pas de publicité à l'intérieur, et on laisse de la place. Alors de la place aux journalistes pour écrire plus long, pour écrire mieux, peut-être, avec un effort sur l'écriture, non pas qu'on le fasse pas au quotidien, mais voilà, là on laisse un peu plus de temps, on laisse de la place à la photo, à l'illustration. Voilà, donc c'est un ce qu'on appelle aussi un bel objet de Noël.
Alors tous nos auditeurs n'y auront pas accès. malheureusement, mais qu'est-ce qu'il y aura en gros dedans
qu'est-ce qu'il y aura
de contenu
donc, en termes de contenu, donc l'angle, c'est le climat d'un point de vue intime. Et petit scoop pour C'est pas du vent, le gros titre de ce hors-série sera le climat de vous à moi. Donc il s'agit de rapprocher vraiment de la vie quotidienne, justement, des habitants de la planète, du climat. On se posait cette question, comment rendre concret, comment on intéresse les gens. Donc il y aura des grands reportages en Indonésie, aux Pays-Bas, en Écosse, aussi en Normandie, plus près de chez nous à Paris. Également une longue série de ce que l'on appelle des infotographies. Alors les infotographies, ce sont des photographies que nous produisons nous-mêmes à Terra Eco, avec des éléments d'infographie dessus. Pour vous prendre un exemple juste basique sur la planète qui a la fièvre, eh bien nous avons notre journaliste Cécile Cazenave qui s'est prêtée au jeu de la photo et qui s'est mise sur un canapé avec une très belle couverture rouge et avec des petits éléments sur cette très belle photo pour faire comprendre comment la hausse des températures sur la planète augmente près de chez nous comme une personne malade sous sa couverture.
L'effort de pédagogie, vous y participez aussi Anne-Sophie, puisque en dehors de Place to Be, vous êtes aussi journaliste et vous avez participé au 1, qui est le 1, c'est un journal un peu nouvelle forme. Là aussi, ça a évolué en 6 ans. On a vu émerger de nouvelles formes de médiatisation et c'est tant mieux pour la pédagogie climatique, j'ai envie de dire. Et dans ce numéro, il y a beaucoup d'explications, mais très simples, avec quelques penseurs ou quelques bons connaisseurs du dossier.
Le 1, c'est un hebdomadaire qui est publié tous les mercredis, qui se déplie et qui prend un sujet. Donc c'est un média généraliste qui prend une question d'actualité et qui va croiser des regards d'experts, de dessinateurs, de photographes, de différents de poètes aussi, de romanciers. Et on a fait un hors-série XXL, et c'est un numéro qui se déplie. Donc on peut se perdre dans les plis du 1. C'est compliqué de le lire dans le bus ou dans le métro ou autre en transport, mais ça fait une belle affiche au final. Et justement, on fait appel à des contenus différents, c'est-à-dire qu'on a les repères à chaque fois où c'est dessiné comme une BD. On a le chiffre qui est expliqué par Lou Wolf, généralement, qui est statisticien. On a des textes philosophiques, on a des textes de littérature, on va aller chercher des textes anciens aussi. Et sur ce numéro, on a fait des rappels peut-être en termes de vie quotidienne d'éco-gestes. On a aussi fait un jeu quiz avec BioViva pour concevoir aussi quelque chose dans le jeu. On sait qu'il y a une appropriation différente que quand on est simplement dans la lecture. On a une grande interview avec Pascal Canfin, que vous avez déjà reçu dans l'émission, avec Jean-Claude Amezen. On a mis, voilà, c'est
tout mis en scène. Que nous recevrons demain dans l'émission,
voilà.
Décidément.
Et donc du coup, voilà, avec une belle photo de Yann Arthus-Bertrand en couverture, un immense dessin, du coup, qui peut faire une affiche aussi grande qu'une affiche de cinéma.
Donc là aussi, beaucoup de pédagogie. Et alors, Philosophie Magazine, vous êtes dans votre rôle, puisque au milieu de votre dossier, il y a les 12 visages de Mère Nature. Vous rappelez que, en fait, comment penser l'environnement, le ciel, la terre et l'univers, c'est l'un des questionnements majeurs de la philosophie depuis la plus haute antiquité. Et vous nous offrez quelques pensées comme ça de grands philosophes pour prendre un peu de recul et peut-être s'inspirer justement de leurs réflexions pour trouver notre place dans le monde. Alors, on peut pas lire, quoi, il y en a une douzaine, une quinzaine peut-être.
Il y en a 12, c'est ça. C'est un gros morceau du dossier de novembre.
Alors, vous pouvez peut-être nous en citer quelques-uns
Oui, on a essayé. Alors, schématiquement, il y a 3 grandes périodes qu'on peut identifier. Une période plutôt antique, où finalement la nature est un objet extérieur, vis-à-vis de laquelle nous n'avons pas beaucoup à faire, sinon à la respecter, et à, comme le dit par exemple Épicure ou Lucrèce, à y trouver la norme du bien, c'est-à-dire à s'y conformer, pour essayer d'être dans la meilleure disposition vis-à-vis d'elle. Il y a un deuxième temps dans cette grande histoire de la philosophie et du rapport de l'homme à la nature qui est un rapport plus technique qui est notamment illustré par un auteur qui s'appelle Heidegger qui montre comment au XXe siècle finalement la nature est devenue un catalogue de ressources dans laquelle on va puiser et sur laquelle on a une infinie possibilité d'agir. On s'en rend comme maître et possesseur comme aurait pu dire Descartes quelques siècles avant. Et une troisième période, qui est la période actuelle, est un petit peu un médian entre ces deux positions. Donc à la fois, nous avons les moyens techniques infinis d'agir sur la nature, et en même temps, nous avons pris conscience qu'elle n'est pas un objet extérieur, mais que nous sommes nous-mêmes dans cette nature, et que tout ce que nous faisons sur elle, toutes nos façons d'agir, toutes nos émissions, ont un impact non seulement sur la nature, mais sur nous-mêmes. Et qu'en changeant la nature, nous nous changeons nous-mêmes. Donc il y a comme ça un double rapport à la la nature, à la fois nous sommes en extériorité, nous la regardons comme un objet sur lequel agir, et en même temps nous sommes inclus dans cette nature et nous ne pouvons pas nous en dissocier, ce qui est évidemment à la fois inquiétant et en même temps dont on doit prendre de cette position toutes les conséquences qu'il faut en tirer, et espérons-le. Elles seront tirées pendant la campagne.
Oui, et notamment sensibilisation de vos lecteurs. Ça fait du bien, de la philosophie. C'est vrai qu'on prend un petit peu de hauteur. Anne-Sophie Novel, si on veut participer à Place to Be, s'inscrire, il reste des places, vous le disiez.
Il reste comment quelques places pour loger sur place. Certains des auditeurs veulent venir à Paris. On a de quoi loger encore. Et tout se passe sur le site. C'est Place to Be sans eux, donc avec un grand B à la fin. Org.
Et c'est pas très cher, on peut le dire.
Non,
quand même.
C'est pas très cher. C'est un petit peu moins de 300 euros la semaine avec petit déjeuner bio, local. On a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe de tout.
Non, c'est pas pour faire de la pub. Je vous dis pourquoi je pose cette question. C'est parce qu'on reçoit pas mal de demandes de personnes qui aimeraient venir sur Paris pour la COP21 et qui cherchent des lieux d'hébergement.
On va avoir une centaine de bénévoles et certains des bénévoles proposent aussi de loger chez eux. Donc il y a une entraide qui se développe aussi autour du projet. Voilà. Et après, si vous ne pouvez pas venir à Paris, l'événement est en ligne. Tous les rendez-vous qu'on donne le soir ou même un peu en journée seront live streamés, comme on dit, en direct sur le site. On va mettre beaucoup de contenu avec des bulletins numériques, avec des choses un peu nouvelles. Et voilà, on développe les partenariats médias également.
François Meurice, j'imagine que la rédaction de Terra Echo est sur le pont.
Oui, sur le pont. Donc après ce MOOC, j'en profite aussi pour parler du numéro un peu de décembre. Là, on essaye aussi de se différencier en prenant un angle catastrophe ou non, voilà, on en dira peut-être plus dans quelques semaines, puisque d'habitude on tente plutôt l'humour, là on va tenter un petit peu de voir les choses en noir et pas seulement, avec un peu de lumière au milieu de ce noir, et évidemment pendant la COP21, toute la rédaction de Terra Echo sera sur le pont, sur place au Bourget.
Et la possibilité de commander le MOOC en ligne.
Tout à fait, sur terraeco.net.
Cédric Angelbert, donc Philosophie Magazine est disponible dans les kiosques en France.
Dans les kiosques.
Et sur Internet.
Et sur Internet, philomag.com.
Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'être passés dans cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. Merci à vous pour votre fidélité. Demain, nous verrons justement que les enjeux écologiques ne se résument pas uniquement aux questions climatiques avec Jean-Claude Amezen, président du Comité consultatif national d'éthique. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.